Dans la reine du Colisée se rencontrèrent le chrétien et le barbare, représentant de la liberté pour l'Orient et pour l'Occident. Nous sommes nés de leur union et nous, et tout l'avenir. Je vois devant moi le gladiateur étendu, sa tête sur sa main s'affaisse par degrés. Dernière goutte de son sang s'échappe lentement. Déjà la reine tourne autour de lui. Il entend encore les barbares acclamations. Il a entendu, mais ses yeux, son cœur étaient bien loin. Il voyait sa hutte sauvage près du Danube et ses enfants qui se jouaient. Et leur mère, lui égorgé pour le passe-temps de Rome. Il faut qu'il meure et sans vengeance. Levez-vous, homme du Nord. S'écroule l'Empire et le cirque et cette ville enivrée de sang. Alaric assurait qu'une impulsion fatale l'entraînait contre Rome. Il la saccagea et mourut. Le premier banc des barbares, Goths, Bourguignons, Hérules, révérèrent la majesté mystérieuse de la ville qu'on ne violait pas impunément. Celui-là même qui se vantait que l'herbe ne poussait jamais où avait passé son cheval tourna bride et sortit de l'Italie. Les premiers barbares furent intimidés ou séduits par la cité qu'ils venaient détruire. Ils composèrent avec le génie romain et maintèrent l'esclavage. À eux n'appartenait pas la restauration du monde. Ensuite vinrent les Francs, enfants d'Odin, furieux de pillage et de guerre, avides de blessures et de morts comme les autres de fêtes et de banquets, impatients d'aller boire la bière ou à Allah dans le crâne de leurs ennemis. Ceux-là marchaient presque nus au combat, se jetaient dans une barque pour tourner l'océan du Bosphore à la Batavie. Sous leur domination farouche et impitoyable, l'esclavage domestique ne laissa pas de disparaître. Le servage lui succéda. Le servage fut déjà une délivrance pour l'humanité opprimée. Ces barbares apportaient une nature vierge à l'Église. Elle eut prise sur eux. Les Goths et Bourguignons, qui ne voyaient qu'un homme en Jésus, n'avaient reçu du christianisme ni sa poésie, ni sa fortunité. Le Franc adopta l'homme-dieu, adopta Rome purifiée et se fit appeler César. Le chaos tourbillonnant de la barbarie qui, dès Attila, dès Théodoric, voulait se fixer et s'unir, trouva son centre en Charlemagne. Cette unité matérielle et mensongère encore dura une vie d'homme, et tombant en poudre, laissa sur l'Europe l'aristocratie épiscopale, l'aristocratie féodale couronnée du pape et de l'empereur. Merveilleux système dans lequel s'organisèrent et se posèrent en face l'un de l'autre l'empire de Dieu et l'empire de l'homme. La force matérielle, la chair, l'hérédité dans l'organisation féodale. Dans l'Église, la parole, l'esprit, l'élection. La force partout. L'esprit au centre, l'esprit dominant la force. Les hommes de fer courbèrent devant le glaive invisible la roideur de leurs armures. Le fils du cerf put mettre le pied sur la tête de Frédéric Barberousse. Et non seulement l'esprit domina la force, mais il l'entraîna. Ce monde de la force, subjugué par l'esprit, s'exprima par les croisades, guerre de l'Europe contre l'Asie, guerre de la liberté sainte contre la nature sensuelle et impie. Toutefois, il lui fallut pour but immédiat un symbole matériel de cette opposition. Ce fut la délivrance du tombeau de Jésus-Christ. Tous, hommes et femmes, jeunes et vieux, partirent sans armes, sans vivres, sans vaisseaux. Bien sûr que Dieu les nourrirait, les défendrait et les transporterait au-delà des mers. Et les petits-enfants aussi, dit un contemporain, suivaient dans des chariots. Et à chaque ville dont ils apercevaient de loin les murs, ils demandaient dans leur simplicité « N'est-ce pas là Jérusalem ?» Ainsi, s'accomplit en 1000 ans ce long miracle du Moyen-Âge. Cette merveilleuse légende dont la trace s'efface chaque jour de la terre et dont on douterait dans quelques siècles si elle ne s'était fixée et comme cristallisée pour tous les âges dans les flèches et les aiguilles et les roses et les arceaux sans nombre des cathédrales de Cologne et de Strasbourg, dans les 5000 statues de marbre qui couronnent celles de Milan. En contemplant cette muette armée d'apôtres et de prophètes, de saints et de docteurs échelonnés de la terre au ciel, qui ne reconnaîtra la cité de Dieu, élevant jusqu'à lui la pensée de l'homme. Chacune de ces aiguilles qui voudrait s'élancer est une prière, un vœu impuissant arrêté dans son vol par la tyrannie de la matière. La flèche qui jaillit au ciel d'un si prodigieux élan proteste auprès du Très-Haut que la volonté du moins n'a pas manqué. Autour rugit le monde fatal du paganisme, grimaçant en 1000 figures équivoques de bêtes hideuses, tandis qu'au pied, les guerriers barbares restent pétrifiés dans l'attitude où les a surpris l'enchantement de la parole chrétienne. L'éternité ne leur suffira pas pour en revenir. Le charme s'est pourtant rompu pour le genre humain. Le dernier mot du christianisme dans l'art, la cathédrale de Cologne, est resté inachevé. Ses nefs immenses se sont trouvées trop étroites pour l'envahissement de la foule. Du peuple s'est levé d'abord un homme noir, un légiste contre l'aube du prêtre, et il a opposé le droit au droit. Le marchand est sorti de son obscure boutique pour sonner la cloche des communes et barrer aux chevaliers sa rue tortueuse. Cet homme, enfin, était-ce un homme, qui vivait sur la glèbe à quatre pattes, s'est redressé avec un rire terrible et, sous leurs vaines armures, a frappé d'un boulet niveleur le noble seigneur et son magnifique coursier. La liberté a vaincu, la justice a vaincu. Le monde de la fatalité s'est écroulé. Le pouvoir spirituel lui-même avait abjuré son titre en invoquant le secours de la force matérielle. Le triomphe progressif du moi, le vieil œuvre de l'affranchissement de l'homme, commencé avec la profanation de l'arbre de la science, s'est continué. Le principe héroïque du monde, la liberté, longtemps maudite et confondue avec la fatalité sous le nom de Satan, apparut sous son vrai nom. L'homme a rompu peu à peu avec le monde naturel de l'Asie et s'est fait par l'industrie, par l'examen, un monde qui relève de la liberté. Il s'est éloigné du dieu nature de la fatalité, divinité exclusive et marâtre, qui choisissait entre ses enfants pour arriver au dieu pur, au dieu de l'âme, qui ne distingue point l'homme de l'homme, et leur ouvre à tous, dans la société, dans la religion, l'égalité de l'amour et du saint paternel.